Alors, devoir de Bleuane Colloignet. Bon, il y a quelques éléments, tu connais quelque chose, mais c'est un petit peu confus. Hein, et peut-être que tu n'as pas suffisamment analysé le document 2, hein, qui reste quand même assez mal connu, hein. Assez mal commenté, je dis, en général par tout le monde. Hein, d'accord. Alors, intro. États-Unis impliqués dans la guerre de Corée et d'Indochine. Alors, faisons attention. Et moi, je dirais plutôt. C'est vrai, ils sont impliqués, je vais te dire comment. Moi, je dirais qu'on est plutôt ici dans deux documents d'origine américaine et qui font part des sentiments et de la politique américaine vis-à-vis des mouvements d'indépendance. Alors, on se situe en 53 et 60, donc deux mouvements importants, deux dates importantes, enfin deux époques importantes dans la décolonisation. 53, c'est la fin des décolonisations sur le continent asiatique. 60, c'est les décolonisations africaines. Donc, bon, ils sont illustrés chacun par un document. Donc, le premier, c'est plutôt la guerre d'Indochine. Le deuxième, c'est la situation du Congo indépendant, ex-Congo belge. Et puis on se situe aussi dans les relations internationales à des moments de tension, fin de la guerre de Corée, mais on y est encore en 53, et puis montée des tensions au tournant des années 60 vers la crise de Berlin et de Cuba. Voilà, on est dans cette configuration-là. Alors, journal officiel, non, New York Times, non, non. Et puis, mouvement de décolonisation en Afrique, dont celui d'Algérie. Bon, ben, ce n'est pas le bon exemple à prendre, puisque l'Algérie commence. C'est la guerre d'Algérie 54, et ici on te parle d'Indochine, enfin de manière subliminale. Hein, moi j'aurais pas pris l'Algérie. Hein. Surtout que les États-Unis s'intéressent pas du tout à l'Algérie. Nous allons donc voir les liens entre guerre froide et décolonisation. Bon, j'ai dit qu'on n'était pas obligé de mettre la problématique, mais je vais te la donner là. Il faut voir quels sont les liens. Ben, c'est tout simplement que la décolonisation va rajouter encore davantage de tensions. Hein, donc ici, elle va provoquer des conflits. C'est un motif supplémentaire de conflit entre les deux blocs. Et donc l'idée un peu que je défendrais, hein, c'est d'abord, un, extension de la guerre froide aux pays en voie de décolonisation, donc je ferai Asie et Afrique, des peuples tentés par le ralliement à l'un des deux blocs. Hein, ici, soit on met ça aussi en première partie, soit on en fait une petite partie numéro 2, et puis au moins une partie consacrée à ces pays en quête d'indépendance qui l'obtiennent et qui deviennent le théâtre d'affrontements violents, hein, Indochine, Congo belge, hein, puisque l'Indochine débouche sur la guerre d'Algérie. Voilà. Alors, si je lis, tout d'abord, on évite de commencer par tout d'abord. Hein. Point important pour les États-Unis, perte de territoire sous l'influence des États-Unis. Bon, oui, j'ai bien compris. Mais les États-Unis ne le voient pas comme ça. Ce qui l'emporte, et c'est ce qu'on comprend avec le discours de John Foster Dulles, qui a l'air de se défendre d'une accusation, hein, ligne 13, là, hein, il répond à une accusation. C'est pour ça qu'il est si virulent sur la menace communiste, hein, pour faire peur, et puis il se dédouane, hein, à la fin, à partir de la ligne 13, presque la moitié du texte. Il se dédouane par rapport à une accusation interne, hein, à laquelle il va falloir répondre. Bien sûr, donc les États-Unis, ils sont plutôt, tu dis qu'ils se retrouvent face à un dilemme, aider ou non leurs alliés. Bon, alors, ils sont une ancienne colonie britannique, bien, tu l'as dit, hein, et ils disent qu'ils n'avaient pas d'influence sur les puissances coloniales lors de la période de colonisation. Nous n'avons donné de chèque en blanc. Là, tu te trompes. Ils ont une influence, hein, pendant la période de décolonisation. Et notamment, le chèque en blanc ici, c'est le chèque en blanc à la France. Pourquoi ? Parce qu'ils paient l'effort de guerre français en Indochine. Et ils n'ont pas donné cet argent. Il est sous condition. Et la condition, c'est de dire à la France, vous accorderez l'indépendance à l'Indochine. Hein, mais à une Indochine qui sera débarrassée du communisme. Et on va vous aider à vous en débarrasser en payant une partie de votre guerre. Voilà ce que c'est que cette histoire de chèque en blanc. Et donc, il faut maintenir l'unité avec la France, hein, puisqu'elle est dans le bloc occidental, mais il faut quand même aussi ne pas renier complètement l'histoire des États-Unis, qui ont été la première colonie. Voilà. Que les États-Unis voient la création d'un troisième bloc, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ce troisième bloc n'arrive pas à se constituer. Hein. Et donc là, tu parles de la Chine communiste. Alors là, ce qu'on peut voir, hein, dans le document numéro 2, c'est que là aussi, dénonciation de la menace communiste, mais elle est double, la menace maoïste et communiste. Les deux portiers, là, sont en compétition pour séduire Lumumba et porter sa valise, donc pour aider la souveraineté du pays. Et Patrice Lumumba, nouveau Premier ministre du Congo indépendant, cherche un appui international. C'est l'internationalisation, en fait, de ce problème colonial, internationalisation de la crise du Congo, puisque si les Soviétiques interviennent de cette manière-là, suivis un petit peu par les Chinois, mais c'est moins évident, les Américains font de même avec le rival de Patrice Lumumba, et ils l'emportent, puisque Lumumba est assassiné en 1961 par son rival qui obtient la participation de la CIA. Bon, voilà, donc c'est à comprendre, peut-être pas dans les détails, je ne demande pas le nom du rival de Lumumba, mais au moins de comprendre que les États-Unis, s'ils montrent la présence soviétique en Indochine et au Congo belge, masquent la leur, et c'est à toi de la rappeler. Alors, par la suite, la décolonisation permet à l'URSS, deuxième partie, d'étendre son influence. Il faut montrer surtout que c'est un discours de guerre froide, de containment. Donc, on décrit une cinquième colonne communiste. Ce que les Américains ne voient pas, c'est que le sentiment nationaliste vietnamien, par exemple, s'appuie sur le communisme, ce sont des communistes nationalistes, et c'est possible, et pas forcément téléguidés par Moscou, même s'ils acceptent l'aide soviétique du point de vue matériel et financier, évidemment. Tu passes à la guerre du Vietnam, pourquoi pas, mais moi j'aurais montré la continuité, parce que là, la guerre du Vietnam, c'est 64, donc on quitte la période chronologique, et puis on ne peut pas savoir, là, en 60, que Cambodge et Laos deviendront aussi communistes. La menace communiste, d'après les Américains, elle est réelle, de toute façon, ça va devenir communiste, mais c'est une menace pour eux, à l'époque, ce qui est sûr que c'est la réalité de la servitude, de la dictature communiste, elle est toujours là, puisque le Vietnam est toujours communiste et toujours système à parti unique. Alors, les deux idéologies s'affrontent avec, pour souvent, présence de l'armée américaine, c'est assez rare quand même. Ils interviennent dans la guerre de Corée, mais qui n'est pas une guerre de décolonisation, c'est une guerre froide, donc erreur là, je ne suis pas d'accord. Et ils vont intervenir dans la guerre du Vietnam, oui, bien sûr, à annoncer, mais attention, ne pas faire du hors-sujet. Et donc, ce que tu ne vois pas, c'est que dans le document numéro 2, c'est qu'il y a rivalité, URSS-Chine, qui viennent de divorcer en 1960. Alors, d'accord, ils sont liés, mais tu ne montres pas assez comment, notamment sujet de tension supplémentaire et théâtre d'affrontements et d'affrontements violents. Que l'URSS étende son influence, pas tant que ça, puisque le Congo belge, par exemple, l'ex-Congo belge va passer sous influence occidentale. Alors, si tu regrettes qu'il n'y ait pas le point de vue de l'URSS, bien sûr, ou d'autres points de vue, c'est un choix de celui qui pose le sujet. On est entre les deux, y a des éléments, je suis à 10-11, pas tellement plus, parce que je pense que le plan n'est pas suffisamment rigoureux, les documents peut-être pas assez commentés, le document 2, mais bon, ça clôt quand même une année où tu t'es investi, où tu réussis à ne pas avoir de note éliminatoire pour ces deux galops quand même, il faut compter aussi sur les deux autres épreuves, puis en plus tu as été très régulière, très présente, ça ne peut être que positif. Tu as tous mes encouragements pour le concours qui se profile.